La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Frédéric Magé, directeur des Amis de Colette et de la maison de Colette à Saint-Sauveur en Puisée. Vous venez régulièrement ici nous proposer des figures d'écrivaines oubliées. Aujourd'hui, celle de Myriam Harry. Semaine Lottie oblige, vous allez nous faire voyager avec elle de Jérusalem à Paris en passant par Berlin. Et votre pérégrination, elle débute à l'hôtel Drouhin à Paris.
Oui, le 13 février dernier, dans la salle des ventes de l'hôtel Drouhin, il n'y avait ni panier d'osier, ni vieux bijoux, ni vieux lits cassés en palissandre, comme dans la chanson de Barbara, mais réunis en un seul lot des milliers de feuillets de grand format, recouverts de poussière, barrés d'une écriture ample ou très énergique, appuyée, des articles, des nouvelles, des romans. L'œuvre oubliée de Myriam Harry. Au bout de quelques minutes, le marteau du commissaire-priseur retombe et malheureusement, dans la salle, aucune institution publique, aucune bibliothèque n'exerce son droit de préemption. Et c'est finalement un acquéreur ou une acquéreuse, je ne sais pas, anonyme, qui va emporter les trésors fabulés d'un passé qui n'est plus. Et aujourd'hui, pour redécouvrir Myriam Harry, il nous reste une magnifique réédition de La Petite Fille de Jérusalem aux éditions Melassi, et puis une biographie de Cécile Chambard-Gobin qui vient d'être justement rééditée.
Voilà, Drou et pas Drouin, comme je l'ai dit un peu bêtement. Qu'est-ce qu'on sait de la vie et de la carrière de Myriam Harry?
La vie de Myriam Harry a tout d'un roman. Il faut dire qu'elle a, comme Pierre Loti, le goût de la mise en scène. Elle a mystification. Marie-Rosette Shapira naît à Jérusalem le 21 février 1869 d'une mère allemande qui est fille d'un pasteur luthérien et puis d'un père juif ukrainien qui est converti au catholicisme et qui est venu tenter l'aventure en Orient. Il tient d'ailleurs à Jérusalem une petite boutique d'antiquités et d'objets de piété pour les touristes. Très tôt, la jeune femme va marquer l'attention de ses parents par son imagination ardente et ses goûts exotiques qui inquiètent, il faut dire, un peu sa mère qui est très pieuse, mais qui en revanche la rapproche de son père. Alors ses poupées ont pour nom Baal, Astaroth et Moloch. À 12 ans, elle parle l'anglais, l'allemand, se débrouille en russe, en arabe. Elle lit Goethe, Shakespeare, Dante. Et son père l'initie très tôt au Talmud et au Coran. En fait, son éducation tout à fait non conformiste est à l'image un peu de ce Jérusalem cosmopolite de la fin du 19e siècle.
Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ces romans aujourd'hui, Frédéric?
Eh bien, ces romans, on pourra leur reprocher aujourd'hui de parfois céder au travers de la littérature coloniale de son temps, mais ils s'en distinguent, à mon avis, notoirement par leur dimension tout à fait personnelle. En quelque sorte, Myriam Harry est une orientale orientaliste, notamment évidemment lorsqu'elle évoque le Moyen-Orient où elle a passé son enfance. Elle excelle à décrire les paysages, à retranscrire l'atmosphère des villes, et elle porte, c'est vrai, une attention tout à fait particulière au sort des femmes. Son œuvre est très ample, elle est morte en 1958, elle a écrit une quarantaine de romans qui ont été publiés dans très nombreuses langues. Aujourd'hui, je l'ai dit, il n'y a plus qu'un seul roman qui est disponible, donc c'est véritablement toute une œuvre qui est à redécouvrir, à côté de celle de Pierre Loti, qu'il avait surnommé ma sœur en bénouinerie, ou bien celle des frères Tarot, ou bien celle de Claude Farrère, eux aussi malheureusement oubliés. Espérons qu'un jour les archives vendues il y a quelques mois reparaîtront, peut-être dans un catalogue de vente ou chez un libraire, et permettront ainsi à des chercheurs de se pencher sur cette œuvre, de l'étudier, de faire redécouvrir cette œuvre tout à fait singulière de celle qui fut pour ses contemporains la Sulamite de Paris.
Et puis une fois n'est pas coutume, vous avez décidé de nous parler d'une actualité de la maison de Colette. Il s'agit de la 8e édition du Festival international des écrits de femmes qui aura lieu ce week-end, les 12 et 13 octobre à Saint-Sauveur en Puisée, et qui a cette année pour thème oriental. Racontez-nous un peu tout ça.
Eh bien, depuis 2012, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, donc dans le village natal de Colette, nous essayons de faire entendre la voix des femmes oubliées du passé. Donc, chaque année, on accueille des écrivaines, des universitaires, ou bien des comédiennes ou des réalisatrices qui arrivent aussi pour faire redécouvrir tout un patrimoine passé, comme l'aurait dit Michel Perrault, dans les coulisses de l'histoire. Et cette 8e édition, qui se déroulera donc ce week-end, les 12 et 13 octobre, aura pour thème les orientales et nous conduira, des voyageuses de la fin du 18e siècle jusqu'à Vénus Corrigata, que nous recevrons. C'est une des invitées d'honneur de cette édition. Et on fera évidemment aussi une large place aux créatrices contemporaines. On recevra Hélène Cixous, qui répondra aux questions de Catherine Clément, Shala Shafik, Mariam Majidi, Pinar Selek, Abnou Chalmani, Camille, Samar Yazbek et bien d'autres. Cette édition sera également l'occasion de rendre hommage à André Chédid avec la comédienne Catherine Salvia et le petit-fils d'André Chédid, Joseph Chédid, le frère de Mathieu. Également de rendre hommage, et j'y tenais beaucoup, à une immense photographe, Leïla Alaoui, qui est morte en 2016 dans un attentat et dont nous exposerons, dans le cadre de la Maison de Colette, une série de 8 portraits de sa série Les Marocains, une œuvre tout à fait saisissante, qui est un peu l'équivalent des Américains de Robert Capa, qui incarne vraiment un regard très humaniste et contemporain sur l'Orient. Je rappelle que la manifestation est gratuite et que le programme est disponible sur les sites maisondecolette.fr et écritefemme.fr.
Merci beaucoup Frédéric Magé. Je donne donc rendez-vous à nos auditeurs à la Maison de Colette ce week-end pour le 8e Festival International des Écrits de Femmes. À très bientôt.